affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui dans notre studio le cinéaste Régis Varnier, à qui l'on doit notamment, comme chacun sait, Indochine, film qui connut un succès mondial et lui valut l'estime de la profession, puisqu'il a été récompensé à la fois d'un Oscar et de 5 Césars. Et pourtant, Régis Varnier, depuis un certain nombre d'années, se fait rare sur les plateaux de cinéma, si bien qu'il nous revient aujourd'hui dans un autre domaine, avec un livre, un roman, Les Prix d'Excellence, publié en janvier chez Grasset. Que nos auditeurs cinéphiles ne désespèrent pas et se rassurent toutefois, car cette vaste fresque familiale est quand même quelque peu cinématographique. Il y est question de cinéma, et puis parce que bien entendu, nous allons évoquer le cinéma au fil de notre émission et les particularités de l'un ou l'autre des types de création. D'ailleurs, peut-être peut-on en commencer par là. Régis Varnier, bonjour d'abord.
Bonjour.
J'ai oublié de préciser que vous étiez membre de l'Académie des Beaux-Arts, ce qui vaut aussi votre présence.
Je suis chez moi ici.
Exactement. Et moi, je ne suis qu'invité. commençons peut-être par là. Les Prix d'Excellence sont un roman.
Ouais.
Ils auraient pu tout aussi bien être un film ou pas ?
Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Déjà, il y avait peut-être au départ dans ma tête, pas encore deux films, mais je dirais l'idée de deux histoires. Voilà. Avant que ce soit scénario ou roman, c'était des histoires. Et j'avais envie de ne pas me poser des questions. J'ai pas d'autres mots que faisabilité, pardon, c'est pas très juste. Des mots de. En tout cas, pas des. La question de la fabrication. Parce que ces histoires, j'avais l'intention de les raconter dans le temps et l'espace, et c'est-à-dire sur une trentaine d'années, hein, parce que l'action commence en à peu près en 1967-68 et va presque jusqu'aux années 2000. Et je voulais aussi avoir la liberté que mes personnages, Mathilde et Georges, on y reviendra, que mes personnages se baladent, voyagent, accomplissent leur vie, leur destinée, parce que lui, par goût, par choix, par profession, est un grand voyageur. Et je voulais pas me poser des questions, me pré-poser des questions qu'allaient me poser des producteurs. Mais dis donc, il faudrait réduire ça. On peut pas aller en Asie, on peut pas aller en Afrique. Comment tu vas faire à la 18 ans, après à la 40 ans, après à la 50 ans comment on fait avec l'actrice, etc., etc. Je voulais être absolument libre et ne pas avoir la petite voix du producteur par-dessus mon épaule. Je voulais pas qu'on me dise le roman commence par une panne géante d'électricité à la Tour Eiffel pendant la nuit, lors d'une soirée, et je voulais pas qu'on me dise ça c'est pas possible, on peut pas louer la Tour Eiffel 4 nuits, 300 figurants, c'est tout le budget du film. Fais raconter la scène par un personnage, voilà, ce que j'entends souvent. Donc j'avais ça, j'ajoute une formation littéraire. Moi j'ai une licence d'enseignement, je pourrais vous professer demain, une licence de français, latin, grec. J'ai toujours été proche des mots, de la littérature. J'écris depuis 30 ans des scénarios, mais j'écris depuis 30 ans. Je suis un peu frustré d'écrire comme on demande, c'est-à-dire pour l'image. Parce que dans un scénario, par exemple, si je suis à une terrasse de café, seul, il y aura écrit dans le scénario, la terrasse est pratiquement déserte, c'est tôt le matin, un serveur derrière, Régis est assis, il est pensif. Point. Parce que ce sera lu par des producteurs, des techniciens, des agents, des acteurs, et ils doivent juste être au plus près de ce que sera l'image. Je ne peux pas dire à quoi Régis pense. Voilà. Alors que dans un livre, je rentre dans la tête de Régis et à quoi il pense. Cette terrasse de café lui rappelle que 20 ans plus tôt, il était déjà assis à la même endroit, que la déco a été refaite, que ceci, que cela, que ce jour-là était passé. Voilà. Et c'est cette liberté-là, cet envol, je dirais, cet élan que je ne voulais pas contrarier avec si c'est un film, il faut que je me restreigne. Voilà.
Vous voulez dire que du coup, il y aurait des sujets qui sont davantage dédiés par nature au cinéma et d'autres, ou des histoires plutôt que des sujets, des histoires plutôt dédiées à un traitement cinématographique et d'autres à un traitement au
cinéma. Alors oui, oui et non. Oui et non, parce que je pense aux adaptations. Je pense à que d'aucuns, ça fait quand même 3-4 fois qu'on adapte Guerre et Paix. C'est quand même au départ.
Alors c'est un gros morceau.
C'est un énorme morceau. Ça a été adapté par les Américains avec Audrey Hepburn, puis à mon avis le meilleur par les Russes.
Bondarchuk.
Le film de Bondarchuk, oui, qui est 2x4 heures, je crois, qui est exceptionnel. Il y a une série anglaise en ce moment qui passe, une série télé anglaise qui passe avec Guerre et Paix. Le très spectaculaire roman de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, est devenu un film avec aussi. Mais là, finalement, c'est juste parce qu'on a affaire à des adaptations. On dit bien adapté. Adapté vers un autre médium. Voilà, une autre manière de montrer les choses. Et là une fois, alors je ne voulais pas, dans ma tête, commencer à adapter le roman que j'avais en tête vers un film.
Vous disiez toutefois que vous aviez des histoires.
Oui, j'avais deux histoires. En fait, j'avais l'histoire de Mathilde et puis une autre histoire qui est l'histoire de Georges. Et alors, je les ai développées comme on peut le voir dans d'autres livres. Hein. Je les ai développées un chapitre Mathilde, un chapitre Georges. Hein. Et de toute façon, j'avais quand même prévu dans ma tête qu'ils allaient se rencontrer. Ça arrive, à mon avis, je crois, à peu près au quart du livre ou un peu après. Voilà, c'était les deux personnages principaux. Comme je vous dis, je voulais les suivre pendant longtemps et dérouler. Alors, en plus, le fait d'écrire pour un roman, moi, je me suis senti délivré, trop d'ailleurs, parce que j'ai dû écrire 650 pages, 700 pages que j'ai envoyées à un seul éditeur, lequel m'a répondu c'est très bien, on considère que vous avez un éditeur. J'étais quand même très content d'entendre ça. Il dit, mais on va couper. Et alors, j'ai coupé avec allégresse. Parce que nous, les cinéastes, on a l'habitude de la coupe. Déjà, on coupe au scénario parce que c'est trop long. Parce que si on est sérieux, il y a un moment, on fait minuter le scénario. Quand quelqu'un vous dit, Yana, c'est 2h25, on sait que ce n'est pas une histoire qui doit tenir en 2h25, mais en 1h50. Donc, il faut commencer à couper. Alors, j'ai l'habitude de ça. Et on a l'habitude aussi, lorsqu'on a commencé à monter le film, en se gardant des libertés. Donc, on a laissé les choses un peu en longueur. Tout d'un coup, là aussi, on se retrouve avec un premier montage de 2h20. Et on se dit, ben, on va couper au moins 20-25 minutes. Donc, c'est quelque chose qui est dans ma nature ou dans ma structure. Et j'ai toujours en mémoire cette phrase d'une amie monteuse, quand je m'accrochais à une scène que j'aimais beaucoup, et pour des bonnes mauvaises raisons, c'est que le tournage avait été formidable, qu'il y avait eu de l'émotion au tournage, que ça avait été une journée de tournage magnifique, qui nous laisse fatigués le soir, mais épanouis. Et elle me dit, de toute façon, cette scène-là, personne ne la regardera, parce qu'à part toi, personne ne sait qu'elle existe. C'est une excellente leçon. C'est très simple hein, comme leçon. Mais il faut je la retiens. Voilà.
C'est comme les romans non écrits ou non publiés, c'est un peu triste aussi.
Oui, mais en même temps, quand vous montez un film, il y a une efficacité, il y a un rythme et une très belle scène peut curieusement, quelle que soit sa beauté, elle peut ralentir, elle peut distraire, presque déranger.
Vous évoquiez dans cet échange, ainsi que dans le livre d'ailleurs, le débat qu'il peut y avoir et l'aspect collectif. Un film, c'est une œuvre collective, il y a une équipe, une intendance, on peut échanger, dire est-ce que tu penses que je garde telle scène, que j'enlève celle-ci. Dans l'imaginaire collectif en tout cas, un roman c'est une œuvre beaucoup plus solitaire. Ouais. Seul face à la page, blanche au départ, griffonnée ensuite.
C'était une des questions que je me posais. Moi, je dis toujours ça à mes confrères, ils font la gueule, mais je leur dis, nous, metteurs en scène, on est des artisans. On n'est pas des artistes, on est des artisans. On essaie de faire un très beau boulot, mais justement, on a très vite besoin d'un producteur qui va nous rassurer, à qui on va, je dirais pas pitcher, alors je dirais à qui on va présenter un projet, qui va dire ça m'intéresse, on développe. Alors, on développe avec un scénariste, oui, on est déjà trois, tout d'un coup. on a à peine commencé qu'on est déjà trois. Puis après, on va s'adjoindre peut-être un dialoguiste, et puis à un moment, on va commencer à faire des repérages, même pour l'écriture, on va être quatre, cinq, et puis le jour où on aura le feu vert de la compagnie partenaire UGC ou Gaumont, on va être cinq, six, sept, puis après les techniciens arrivent, et on finit à 30, 40, etc. Voilà. Et dans le meilleur des cas, et personne ne peut le prévoir, un film va devenir une œuvre d'art. Je prends 8,5, par exemple, je prends Ran de Kurosawa. Un jour, on voit le film et on dit, mais c'est une œuvre d'art. Mais quand ils le font, ils n'ont pas ça en tête. Donc, c'est un concours de circonstances, avec aussi une addition de talent. Mais moi, j'étais toujours très bluffé, surtout par les compositeurs de musique, par leur solitude ou par les peintres. Et puis, j'en rencontre à l'Académie des gens qui travaillent seuls. Et je me suis dit, parce que je suis au Beaux-Arts, je suis pas à la Française, est-ce que tu es capable de faire un truc tout seul? Voilà, d'écrire tout seul un livre. Alors, il y avait plusieurs questions. Il y avait, première question, c'est est-ce que j'irai au bout? Parce que j'ai des copains qui m'ont dit, j'écris un roman, puis ils sont arrêtés. Non, mais est-ce que j'irai au bout?
Ils sont nombreux dans le cas.
Oui, première question. Deuxièmement, une fois que j'aurai été au bout, je vais l'envoyer à un éditeur. Est-ce que quelqu'un va le prendre? Voilà. C'était les deux questions majeures. Il y a une troisième question majeure, mais ça, c'est en ce moment. C'est qui va le lire, voilà. Mais en tout cas, j'ai répondu oui à deux questions qui étaient importantes pour moi. Voilà.
Peut-être une autre différence aussi, que c'est si, qui va le lire. S'il est pas lu, c'est triste, c'est regrettable. Mais c'est beaucoup moins grave, je pense, que si
économiquement.
Économiquement.
Oui, oui, c'est ça. Là aussi...
Ça offre une liberté, quand même.
Mais quand je parlais de pression, justement, et de pression sur le cinéma... et puis déjà, le cinéma, c'est très différent. C'est-à-dire que la promotion, enfin tout le travail que vous faites pour le faire connaître, s'arrête le jour de la sortie. À la limite, à 9h du matin, on va encore vous faire faire une matinale quelque part. Mais à midi, vous n'existez plus pour les médias. Mais vous les encombrez même. Ils sont déjà sur la semaine suivante. Et à 14h, souvent même à 10h du matin, mais disons à 14h, c'est plus fiable, 14-15h, vous avez les premiers chiffres de l'exploitation cinématographique. Et là, ils font une extrapolation, ils peuvent vous dire si le film est une réussite, un échec. Et la courbe ne s'inverse une fois sur 1000 aujourd'hui.
Avant, c'est comme un sondage, c'est précis.
Oui, voilà, mais avant, on donnait, les films avaient une chance de se rattraper, d'avoir un bouche-oreille rapide, un week-end qui tout d'un coup sourit, ce qui fait mauvais temps, puis il y a déjà des gens qui l'ont vu, la presse les soutient. Aujourd'hui, l'exploitation, elle est devenue sauvage, c'est-à-dire qu'avant, quand vous vouliez, quand dans un multiplex, si vous avez décidé, parce qu'un film remplit mieux qu'un autre, de changer... de vous sortir de la salle de 320 fauteuils pour la salle de 70 fauteuils, il fallait trimballer les bobines, enfin, c'était très compliqué. Aujourd'hui, tout ça étant numérisé, aujourd'hui, l'exploitant, avec un clic, il programme ce qu'il veut. Et il peut très bien mettre deux salles sur un film américain le week-end et vous laisser le dimanche à 22h. Mais officiellement, vous êtes toujours programmé. Donc ça... Tout ça, oui, c'est des choses importantes. C'est vrai que le budget d'un film, même si on le finance bien, le financement est couvert, mais en tout cas, il n'y a pas encore des recettes. Ce ne sont pas des recettes, c'est du financement. Donc, ceux qui ont financé veulent récupérer des recettes. Et c'est très rare aujourd'hui qu'un film français récupère sur la salle. Et cette pression-là, elle est dure. Un livre... Alors, je reviens aussi...
Oui, cette pression-là, elle s'exerce même pendant le processus créatif.
Ah, mais oui, mais tout le temps. Et puis je reviens sur le scénario. C'est-à-dire que le scénario, ce n'est pas un objet fini. C'est un objet transitoire. C'est un outil de travail, comme je disais, où on a écrit ce que l'image va raconter, ce qu'on va faire avec l'image. Donc, c'est un outil de travail que vous donnez à des gens pour travailler avec vous. Et puis après, il y en a qui le gardent parce qu'ils l'aiment bien. Et puis... Voilà, il y en a qui s'en débarrassent, mais en tout cas, ça ne circule pas. Ça circule pendant le travail. Alors qu'une fois que vous avez écrit un scénario, vous allez chercher des millions d'euros. Voilà, sur un objet qui, moi, ne me plaît pas forcément, parce que je trouve qu'il n'est pas fini. C'est une étape. Alors qu'un livre, bon, à part la fabrication, c'est pas très cher. Et je vois que le seuil de rentabilité d'un livre, c'est assez bas. Je crois que c'est autour de 2000 exemplaires. Enfin, voilà. Donc tout ça m'a probablement donné beaucoup de légèreté, de liberté, de plaisir. Et je vous disais peut-être un peu trop, parce qu'il y avait une telle envie d'écrire que j'ai, à un moment, plus qu'au fil de la plume, je me suis laissé sciemment... débordé par des idées, des images, et puis après j'ai gommé quand même.
Alors justement, les idées, les images, les personnages, l'histoire est construite autour de personnages. Est-ce que vous pouvez s'en dévoiler exactement leur destin? On n'est pas là pour gâcher la lecture.
Les résumés, enfin les présenter.
Les présenter, pour qu'ils prennent un petit peu de chair.
Les deux personnages, ils ont grandi l'un et l'autre dans des années que j'ai connues. Donc déjà, je parle d'un temps qui a été le mien. Elle, Mathilde, elle a 18 ans en 1968. Elle est originaire de la bonne bourgeoisie du Nord. Son père a fait une réussite et de l'argent dans le textile. Et elle est assez silencieuse, assez pas dans sa tour, mais elle est assez discrète. Elle a rempli le contrat demandé par ses parents, c'est-à-dire elle est une excellente élève, d'où le titre, le prix d'excellence. Son grand frère qui a pris puisqu'il y a des histoires un peu compliquées dans la famille, donc c'est le grand frère qui a pris la famille en main à la place du père, je dirais déficient. Le grand frère a un programme pour sa petite sœur, telle école de commerce, et on va discrètement lui trouver un fiancé dans l'entourage, et si possible, si c'est quelqu'un qui pourrait être un associé un jour dans nos affaires, c'est très bien. Et je pense que elle est partie pour cette voie-là, même si l'exemple de sa mère devrait la prévenir que dans ce genre d'emprisonnement discret, on peut laisser des plumes. Et puis un jour, elle monte dans un train, après une mission qu'elle a accomplie pour la famille, elle monte dans un train bondé, complet. Le conducteur lui dit « mais moi, je peux vous prendre en cabine ». C'est des choses qui sont arrivées. Hein. Et ce voyage va devenir un coup de cœur, un coup de foudre, un avertissement. Elle tombe sur un homme qui n'est pas de son milieu, dont les parents sont originaires d'Ukraine. Ils sont venus dans les années 30 à cause de la famine et du communisme. Le père de ce conducteur de train a travaillé dans la mine. Et cet homme lui parle avec émotion de ce qui lui a probablement sauvé la vie, sa jeunesse et d'adolescence, c'est le cinéma. Il dit « je suis venu au cinéma parce que j'adorais les scènes dans les trains, dans les gares. Voilà. » Et voilà, personne ne lui a jamais parlé comme ça, avec une telle franchise, avec une telle impudeur, je dirais. Et puis, lorsque le train arrive à Paris, et que l'homme lui dit « maintenant, suivez-moi, on va aller boire un coup, on va dîner ensemble », elle ne se pose pas la question. Elle sait que c'est sa chance de briser la route toute tracée. Voilà.
Pour la tangente.
Voilà, ça, c'est le début de l'histoire de Mathilde. Et puis, je dirais à peu près quand elle a 20, 21 ans, une autre histoire commence, qu'elle ne connaît pas encore. Nous non plus, on la découvre, c'est l'histoire d'un petit orphelin de la guerre du Vietnam, probablement le fils d'une Vietnamienne et d'un GI. Très métissé. Alors il y a du sang asiatique, du sang américain, peut-être du sang métis américain aussi. Et cet enfant fait partie d'un convoi qu'on envoie en Europe vers des parents adoptifs qui ont décidé de prendre en charge chacun un enfant. Et il est placé dans une famille d'adoption d'un couple d'épiciers parisiens, une petite épicerie comme il y en avait à l'époque, et une petite épicerie dans les beaux quartiers. Voilà. Et lui, il est très conscient, très vite conscient qu'il ne peut pas être l'enfant de ce monsieur, de cette dame très gentille. On le met dans la bonne école de curés du quartier, parce que les curés sont des gens charitables, donc un petit enfant adopté, etc. Et Georges, c'est son nom. Ils ont oublié le S quelque part, donc on l'appelle Georges, J-G-E-O-R-G-E. Il va être en but à l'école à cause de sa différence, à cause de sa peau, à cause aussi de son niveau social inférieur. Il va être mis à l'écart. Et je pense que c'est ça qui va lui donner une force peu commune de travail, d'intelligence, d'orgueil aussi. Ce qui fait que lui aussi va devenir prix d'excellence. Voilà. Et on va suivre sa progression à l'école, on va suivre ses choix. De même que pour Mathilde, on va suivre les premiers émois amoureux, la découverte de la sexualité. Et puis, je saute des étapes, mais il est évident. On comprend très bien en lisant le livre qu'ils vont se rencontrer. Et effectivement, ils vont se rencontrer dans une école suisse où Georges suit des études supérieures, quand Mathilde a à peu près 40 ans et Georges 20. Voilà. Et je ne dirais pas que l'histoire commence, qu'elle a commencé. Mais en tout cas, l'histoire commune de Georges et Mathilde va commencer à ce moment-là.
Oui, voilà le démarrage de deux destins.
Ouais.
Alors je précise que les premiers chapitres sont donc titrés du nom de l'un et de l'autre. Et ensuite, petit à petit, s'y agrège toute une foule de personnages. Parce que c'est aussi une galerie de portraits.
Hein. Oui, oui, il y a la famille, parce que la famille de Mathilde est dense. Mathilde, elle a un père et une mère, Lucien et Colette, je dirais des parents à l'ancienne, avec tout pour l'apparence, tout pour l'apparence, la façade, mais Lucien a une double vie que Colette, la maman de Mathilde, découvre et ça va l'amener à des comportements névrotiques puis psychotiques. Mathilde a deux grands frères, Jérôme et Étienne. Étienne est designer, il a une âme d'artiste, il mettra du temps à s'y mettre, puisqu'il manque peut-être d'ambition ou de force. Et Jérôme, lui, a décidé que la famille, il fallait la reprendre en main. Et surtout, Jérôme a une ambition d'homme d'affaires et de grande réussite sociale. Voilà, ça, c'est du côté de Mathilde. Du côté de Georges, il y a ses parents adoptifs qui sont plein d'amour pour lui, qui sont très épatés d'avoir un enfant à la fois aussi secret, discret, mais bon élève et à qui ne peuvent rien reprocher. Sinon, peut-être qu'il garde, s'il reste un peu à distance. Et Georges, lui, il va donc se retrouver dans un collège réservé à l'élite, à l'élite du monde entier. Hein. Le patron de ce collège, Léonard, il fait venir les meilleurs de certains pays du monde en espérant qu'ils auront un jour des hautes fonctions chez eux et qu'ils changeront le monde car ils ont été bien éduqués chez lui. Et là, Georges va faire une rencontre qui va le bouleverser, même s'il ne le sait pas tout de suite, mais c'est l'absence après qui lui indiquera à quel point c'était bouleversant. Il va rencontrer quelqu'un qui lui ressemble, parce qu'il n'a pas d'identité officielle, qui est un étudiant qui vient de la Corée du Nord, qui a la même peau que lui, probablement.
Qui n'est pas un réfugié, hein.
C'est le directeur de l'école a dit j'ai une demande de la Corée du Nord, c'est étrange, mais je l'accepte parce que c'est une expérience. Alors, j'ai inventé cette école, mais j'ai pas inventé que Kim Jong-un, l'actuel leader, j'avais vu ça dans un petit papier, deux lignes il y a quelques années, qu'il avait fait des études en Suisse, mais plus jeune, pas en université, mais dans au collège, quand il avait, je crois, 15 ou 16 ans. Et ça m'avait frappé. Je me disais, mais comment on peut, quand on a une tête nord-coréenne, marxiste, léniniste, communiste, comment on peut passer 2 ans en Suisse avec l'accès à la télévision, aux médias, à la presse, à la liberté, aux copains de classe, comment on s'en sort? Est-ce qu'on ne devient pas schizophrène? Comment on fait? Voilà. Et j'avais gardé cette idée et puis tout naturellement j'ai placé ce Wang, ce jeune étudiant, très silencieux forcément, je l'ai placé dans cette école et il va avoir avec Georges une relation qui va les bouleverser tous les deux. Voilà.
Alors au-delà des personnages, on a commencé à l'évoquer, ce sont les destins de personnages, mais c'est aussi une fresque historique qui s'étend, vous l'avez dit, sur une trentaine d'années. Ce sont des années de grands bouleversements. Qu'en retenez-vous et qu'avez-vous voulu glisser dans le livre à ce propos?
Je retiens que le siècle, enfin bon, moi je suis né en 48, donc j'ai grandi là-dedans. L'idéologie, pas forcément maîtresse, enfin, l'idéologie la plus puissante qui a marqué le XXe siècle, si on découpe le temps comme ça, il faut l'accepter, c'est le communisme. C'est 1905, 1917, 1989, 1991. Voilà, c'est le XXe siècle et le siècle du communisme, d'une idéologie qui a...
Dans un livre d'ailleurs, ça.
Oui,
siècle soviétique.
Voilà, qui a fait des ravages, une idéologie qui a fait ses preuves, après qui a montré ses ravages. Mais c'était tellement puissant et tellement présent que on n'imaginait pas une seconde que ça allait changer. Le monde était divisé en deux parties, les capitalistes et les communistes. Il y avait entre eux une guerre froide qui finalement évitait les guerres chaudes, sauf que les guerres chaudes, elles existaient
ailleurs.
Elles existaient ailleurs, mais dans les pays qui étaient sous influence des deux grands leaders, qui étaient les États-Unis et l'URSS. Mais c'était l'état du monde et personne n'imaginait que à la fin de l'année 89, la destruction du mur de Berlin allait avoir la peau du communisme et qu'elle allait libérer l'Europe. aller changer le destin aussi des pays qui étaient associés ou en tout cas alliés des communistes. Et je pense que le, alors ça reste, parce que moi ça m'a frappé. D'ailleurs, j'ai fait dans les longs métrages que j'ai fait, Indochine raconte la montée de la révolution à travers le communisme. Dans Est-Ouest, on voit une jeune femme qui a épousé un Russe, lequel accepte l'appel de Staline après la guerre de reconstruire la Russie. On pardonne à tout le monde. En fait, c'était un piège pour se débarrasser des diasporas qui traînaient encore dans les pays libres d'Europe, de l'Ouest. J'ai fait un film au Cambodge d'après le livre de Bizot, Le Portail, que j'ai appelé Le Temps des aveux, qui racontait le face-à-face entre un ethnologue français fait prisonnier par les Khmer Rouges et son débat dialectique pour se sauver et survivre face à son geôlier Khmer Rouge et communiste. Mais ça nous a marqué. Donc là, évidemment, il y a une scène clé qui se passe pendant la chute du mur de Berlin. Et puis, est un moment d'illusion pour mes deux personnages, pour les deux Asiatiques, parce qu'ils se prennent par la main et ils traversent le mur et ils filent à l'est, mais ils savent très bien qu'ils peuvent pas partir comme ça n'importe où, qu'on va les rattraper. Mais en tout cas, ils s'offrent une nuit comme ça, une nuit de liberté, même dans l'illusion, et puis à précéder d'un adieu, parce que curieusement, ce mur qui s'ouvre, ça crée d'autres séparations et d'autres clivages. Alors, je ne parle pas beaucoup de mai 68 parce que c'est Mathilde et son milieu social ont trouvé ça plutôt barbant et rasoir et casse-pied. On n'aura pas les examens validés cette année. Enfin, voilà, c'est des gens qui étaient en dehors de mai 68, mais en même temps, c'est intéressant. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont échappé, je dirais, à mai 68. Et puis, j'ai situé, parce que c'est toujours les choses que j'ai aimé faire au cinéma, j'ai situé un fait divers qui fout la famille en l'air. Le jour du premier tour des élections présidentielles où Chirac devance Balladur, pour ceux qui ont de la mémoire.
Mais là, c'est un simple repère chronologique.
C'est pas un événement fondateur. C'est pas le mur de Berlin, c'est pas la disparition du monde en deux parties. Fort heureusement pour eux, ce dimanche-là, il y avait plus important à mettre à la une des journaux que le fait divers tragique de notre famille qui s'appelle la famille Maupertuis.
C'est l'un des éléments qui est amusant dans la construction du livre, c'est que la plupart des événements collectifs que vous citez ont un impact sur la vie des personnages, et dans celui-là, la vie privée a une importance supérieure à cet événement, pourtant public, qui fait la une des journaux. Voilà, peut-être était-ce un clin d'œil. Mais au-delà des véritables événements géopolitiques marquants et de cette illusion qui est celle des deux personnages que vous citiez, mais peut-être aussi une illusion collective, est-ce que le vrai sujet n'est pas aussi de façon un peu plus profonde, au-delà de l'événement mai 68, la très profonde modification des mœurs, du rapport au bonheur aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que c'était un peu ça, une des clés du thème, du profond thème du livre, c'est comment être heureux. C'est probablement une question qui est vieille comme le monde, mais auparavant, la société et les règles qui vont avec elle apportaient les réponses. Oui, et ces personnages-là se retrouvent dans une période de flottement où les anciennes règles perdurent un petit peu, mais où il faut quand même qu'ils doivent frayer faire leur choix et frayer leur chemin dans un monde qui est tout d'un coup beaucoup plus ouvert et dans lequel il y a peut-être même une injonction au bonheur. Oui, qui n'existait pas auparavant.
C'est comme une liberté un peu encombrante dont on ne sait pas quoi faire. Mais je voudrais juste revenir sur 68 et les années suivantes, effectivement, qui ont mis les gens un peu en perdition, curieusement. Mais moi, j'ai toujours eu une idée sur 68 qui n'était pas une idée. Je ne suis pas un thésard, hein, j'ai pas fait une thèse là-dessus. C'est une idée intuitive. Je pense que, et c'est pour ça que je voudrais parler de l'Italie, de l'Allemagne et de la France, je pense que mai 68, c'est l'explosion du silence de l'après-guerre. Parce que, alors finalement, la réaction n'est pas la même dans les trois pays que je vous ai précités, parce qu'on n'a pas la même histoire pendant la guerre de 40. Il y a deux pays qui ont gagné la guerre et qui sont responsables de pays fascistes, qui sont responsables des massacres et de la tragédie mondiale, et un pays vaincu. Le pays vaincu, il est humilié, mais il n'est pas coupable.
Au début de la guerre. Hein,
voilà. Donc mai 68, comme par hasard, des gens qui sont nés après la guerre, hein, tous, et qui, en gros, à un moment, en ont eu marre du fait que la France, les Français, donc leurs parents, n'ont jamais examiné la période de la défaite, du silence, de l'occupation et pour certains de la collaboration. C'est-à-dire que De Gaulle a lancé une espèce de poudre magique de perlimpinpin sur la France. Nous font partie des alliés, nous sommes les vainqueurs, etc.
C'est tout son génie.
Voilà. Et on ne s'est pas posé la question de
l'inconscient, je veux dire.
Oui, qu'avez-vous vécu? Comment vous avez fait? Comment vous avez survécu? Vous vous êtes contenté de ça? Il y a quand même eu très peu de résistants par rapport au nombre de citoyens. Et je pense que ce silence, à un moment, j'appelle ça le refoulé. Ben, le refoulé, il revient au galop. Hein, et il est revenu au galop chez des gens de 20 ans qui ont dit « Moi, j'accepte pas cette attitude de mes parents. Donc, finalement, ce que je renie aussi, c'est les valeurs morales ou religieuses ou politiques sur lesquelles ils ont reconstruit ce pays. Je rejette tout en bloc. » Alors, chez les Allemands et les Italiens, ça a été beaucoup plus violent, parce que je pense que les Brigades Rouges et la bande à Bader, c'est plus violent que mai 68, et ça a duré plus longtemps. C'est parce que eux, ils étaient les enfants des coupables et des méchants.
Qui est plus à expier. Oui.
Voilà. Je pense que c'est moi, c'est comme ça que j'ai ressenti l'histoire. Et d'ailleurs, il y a un film qui raconte magnifiquement la reconstruction allemande c'est même pas dans le déni, c'est dans la chape de plomb qu'on a posée partout. C'est le mariage de Maria Braun. Le film de Fassbinder, où Anna Schigula incarne, en fait, elle incarne un peu l'Allemagne, quoi. L'Allemagne froide et déterminée. Donc voilà, je pense que... Donc après mai 68, effectivement, il y avait un... Le problème, c'est que comme ça a été un rejet, pour moi, ça aurait été différent s'il y avait des valeurs qu'on voulait promouvoir et mettre à la place, et on aurait bâti sur ce vide qu'on a créé. Mais comme c'était plus un rejet, il n'y a pas eu tout de suite la mise en place d'un autre ordre, d'une autre morale, d'un autre regard sur la vie. Et je pense que ça a été des années de flottement. Et puis il y a eu aussi un échec politique, parce que les ouvriers ne se sont pas entendus avec les étudiants. Ça a été, à mon avis, la limite de mai 68. Et donc finalement, c'est reconstruit une société qui, beaucoup ont rattrapé les valeurs d'avant, parce que finalement, elles étaient encore là. Le monde bourgeois provincial, il a reconstruit ses... Je trouve beaucoup, il a quand même reconstruit ses cadres. Et puis, il y a eu aussi la réussite de l'économie qui masque souvent beaucoup de choses, hein, les fameuses 30 glorieuses qui fait qu'on se posait pas tellement d'autres questions. Voilà, et c'est vrai que les personnages sont pris là-dedans, et je pense que Mathilde, elle incarne assez ce que je viens de raconter, quoi. Je sais pas si c'est pas forcément tout à fait conscient chez elle, mais en tout cas, à un moment, heureusement, c'est une rencontre de hasard, mais il y a quelqu'un qui lui dit, il y a une autre vie, il y a, voilà.
Oui, mais c'est ça. Moi, c'est ce point clé là qui me semble être le verrou qui a sauté, peut-être l'inflexion. C'est que d'un côté, on a une société petite bourgeoise de province où l'injonction est plus sur la conformité d'une part et la réussite.
Et la réussite. Très important.
Et on voit naître avec Mathilde et sa décision de prendre la tangente, peut-être une autre injonction plus séduisante au départ, mais dangereuse. L'injonction au bonheur, qui n'est pas la même chose que l'injonction à la réussite.
Non.
C'est balisé, on donne la direction, on est épaulé par les siens. L'injonction au bonheur est en plus vécue sous l'empire de la liberté individuelle. C'est autre chose, elle doit se lancer dans le vide. Oui, et construire elle-même.
Oui, parce que prenons l'exemple de son grand frère Jérôme, qui va connaître une très grande réussite. Il va devenir un patron de groupe. Un patron de groupe, comme aujourd'hui, il y a des grands groupes économiques, Carrefour ou d'autres, enfin des grands magasins, des chaînes de magasins qui en plus ajoutent d'autres chaînes.
Vous avez bien fait de dire Carrefour, parce que sinon on aurait cru que le personnage existe dans la vraie vie.
Voilà. Voilà. Et elle, c'est vrai que C'est vrai qu'elle choisit, sur un regard, sur une attirance. Mais d'ailleurs, c'est comme vous dites, moi je dirais, c'est casse-gueule parce que qu'elle s'est débarrassée de tout ce qui faisait sa vie. Il y a quand même elle ouvre les yeux sur l'homme qu'elle a suivi et elle se dit qu'est-ce que j'ai fait. Je sais rien, je ne le connais pas. Et alors on aurait pu imaginer qu'après cette rencontre dans un film traditionnel, un grand coup de foudre, ça donne immédiatement une histoire d'amour magnifique. Il y a un temps de doute, il y a un temps de construction. Elle vit avec lui, mais à côté de lui, parce qu'elle est, et peut-être tout d'un coup elle manque de certitude, elle manque de sûreté, et finalement ils sont obligés de repasser par une connaissance et une séduction et une approche. Voilà, le coup de balai est dévastateur, mais la construction derrière ne peut pas se faire, c'est pas un conte de fées, quoi.
La vie est plus compliquée.
Oui. Alors
et la leur aussi, d'ailleurs.
Alors après ils y arrivent. Ils y arrivent, et puis on ne va pas tout raconter, parce qu'après, ils y arrivent, mais il leur arrivera aussi d'autres soucis.
Voilà, mais qu'il ne faut absolument pas raconter sous peine de tout déflorer, car là, on est parti dans des considérations historiques et sociologiques qui sont présentes dans l'ouvrage, mais je précise qu'ils n'en constituent pas la chair. C'est loin d'être un essai déguisé en roman, c'est un authentique roman,
un pur
avec
roman.
Des rebondissements, des histoires d'amour, des larmes, du sang...
C'est l'amour aussi le sujet. Vous parliez de la recherche du bonheur, mais c'est le. Parce qu'en plus, c'est un livre où il y a plusieurs formes d'amour. Il n'y a pas. Les gens disent toujours l'amour comme s'il y avait un seul amour, une seule forme d'amour. C'est l'amour qui relie l'homme du train, comme on va l'appeler, Stanislas et Mathilde, c'est une forme d'amour. L'amour de George et Wang, l'étudiant nord-coréen, et. Notre petit garçon adopté, c'est une autre forme d'amour. Le sentiment qui va se dessiner entre Mathilde et Georges, il est encore différent. Il est fait d'autres choses aussi. Ce sont des formes différentes d'aimer l'autre. Il n'y a pas de modèle, quoi. Mais vous parlez de recherche du bonheur. Je pense qu'ils vont inventer aussi leur modèle. Et puis quand on a 18 ans, 19 ans comme Georges et qu'on rencontre quelqu'un comme ça dont on n'avait jamais deviné qu'on tomberait amoureux d'une peau, d'un silence, parce que Wang il parle pas. Donc leur relation est très très physique, mais très silencieuse et puis cachée. Donc
on peut communiquer dans le silence. Ils communiquent parfois presque plus que ceux qui parlent.
Par la peau. Par la peau aussi, par les regards, mais il n'était pas préparé à ça. Et c'est intéressant parce que c'est la première fois que son cœur bat comme ça. Et c'est lorsque, je raconte pas tout, mais lorsqu'à un moment il y aura une séparation, à un moment il y aura une absence, c'est l'absence qui lui dira c'était lui. Voilà. Peut-être qu'il le sait pas quand il est là, mais il le sait quand il est pas là, quand il est plus là. Alors voilà, c'est aussi le, je dirais, j'aimerais pas s'exprimer, l'amour sous toutes ses formes, ça fait un peu, c'est une drôle d'expression, mais enfin c'est l'amour sous plusieurs sensibilités, sous plusieurs vies, sous plusieurs vécus.
Et même au sein de chacun des personnages, car ils évoluent, c'est-à-dire qu'on n'aime pas de la même façon à 17 ans, à 30 ou à 50. C'est ce qui me vient à vous poser, les personnages... sont loin d'être arrivés au terme de leur vie et la fin.
Non, ils sont jeunes encore.
C'est la fin d'un cycle, mais un nouveau cycle historique aussi va s'ouvrir avec l'entrée dans le 21e siècle.
On y arrive.
Vous songez déjà à une
Moi, j'aimerais bien continuer, oui, mais peut-être que je continuerai en scénario ou en film. Je sais pas, mais en tout cas, d'ailleurs, mes premiers lecteurs me disent bon bah alors.
On s'y attachait quand même.
Ils me disent c'est pas fini. Je dis non, c'est pas fini, mais vous savez quoi ? Parce que je trouve que moi, j'aime bien d'abord. Je trouve que le cinéma ose plus souvent les fins ouvertes. C'est pratique, hein. On fige lentement une image, on met le générique de fin, la musique, donc les gens sortent pas tout de suite. Voilà.
Il aime bien les suites aussi, le cinéma.
Oui, mais ils aiment bien ces suites quand c'est des gros succès américains. Mais souvent, on laisse une fin ouverte. Dans les romans, on a l'impression qu'il faut finir. Il faut que, voilà, il y ait un point final. Et moi, je trouve qu'il y a un seul point final dans la vie. Et franchement, je ne suis pas pressé d'y arriver. Donc, mes personnages sont en vie. S'il leur est arrivé des choses, on va pas dire lesquelles. Il y a des moments après où ils se retrouvent, peut-être malgré eux, dans une nouvelle liberté ou une nouvelle vacance, si on peut dire comme ça. Et je m'arrête là et probablement je ferme pas ce chapitre parce que il va se poursuivre.
Et même les personnages, j'allais dire secondaires, mais qui ne le sont pas, oui, on a envie aussi de savoir ce qu'ils vont devenir, tous ces braves gens.
Oui, parce qu'il y en a qui ont fait des bêtises et on voudrait bien savoir ce qui va leur arriver.
Écoutez, je crois qu'on ne peut pas donner plus envie de le lire que d'avouer qu'on souhaite déjà
la suite.
Une suite. Si elle est sous forme de roman, j'allais dire, tant mieux.
Aussi, non mais alors, je vais être très concret. Si le livre a un écho, évidemment, je serais ravi, ainsi que l'éditeur, de le poursuivre.
Mais vous avez déjà une suite en tête ou...
Ah oui, je vois à peu près ce qui peut leur arriver, oui. Mais quand même, il y aura encore des surprises.
Oui, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que l'histoire, vous l'aviez, comme j'imagine, on l'a davantage pour un scénario, en tête du début à la fin,
non.
Ou est-ce qu'on laisse davantage de personnages vivre ?
Non, j'ai même pas fait de plan. Sur un scénario, on fait toujours une construction. On fait une structure, scène 1, scène 2, scène 3. Et une fois que la structure est finie, dans laquelle on a un peu creusé la scène, on revient au début, on écrit. Et souvent, on se rend compte, au bout de la 5, 6, 7, 8, qu'en creusant, que ce qu'on avait prévu après ne marche plus. Parce que les personnages disent « Ah non, moi ça ne marche plus, là, vous m'avez construit comme ça, maintenant je ne suis pas d'accord. » Mais là, là, j'ai même pas fait de plan, j'ai écrit comme ça. Je lis libre à tous les étages.
Donc vos personnages sont encore libres,
ouais. Ouais,
à ce stade. Tant que ce n'est pas imprimé, ils sont libres.
Ils m'attendent.
Voilà, et nous les attendons. Je reprécise pour nos auditeurs et futurs lecteurs les références de votre ouvrage, les prix d'excellence par Régis Varnier aux éditions Grasset. À lire pour nous aider à nous avoir la suite. Merci beaucoup.